VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans quelques minutes, la reprise de notre magazine L'Amérique et vous. Mais en attendant, un résumé des principales nouvelles du monde. Après le Kenya, Barack Obama poursuit sa tournée africaine par l'Éthiopie. Le président américain a appelé ce lundi les pays d'Afrique de l'Est combattant les islamistes Shebab en Somalie à maintenir la pression sur les insurgés. D'Addis Abeba, Barack Obama a salué le travail des troupes régionales engagées au sein de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, pour combattre les Shebab aux côtés de l'armée somalienne. Le président américain a rappelé les grands axes de sa politique vis-à-vis du continent, la lutte contre le terrorisme et les droits de l'homme. Retour sur cette visite avec Saloua Jafari.
C'est la première visite d'un président américain en Éthiopie. L'accueil était à la mesure de l'événement. Addis Abeba s'est mise aux couleurs du drapeau américain. Mais au-delà des festivités, l'heure est grave. Quelques temps avant l'arrivée de Barack Obama, Mogadiscio était victime d'un nouvel attentat des Shabab. La question sécuritaire était donc inévitable.
La reprise du conflit dans la région qui a été déchirée par des conflits depuis si longtemps et a entraîné un grand nombre de morts, c'est quelque chose qui nécessite une attention urgente de la part de nous tous, y compris la communauté internationale.
Les défenseurs des droits de l'homme espèrent néanmoins que l'invité use de son poids pour apporter du changement. La coalition au pouvoir est régulièrement accusée d'étouffer les critiques. Sur la question de la liberté d'expression, le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn n'a pas mâché ses mots.
Le journalisme doit être respecté tant qu'il ne dépasse pas la ligne. Travailler avec des groupes terroristes violents n'est pas autorisé, même aux États-Unis. Et nous avons besoin d'un journalisme civilisé, comme culture et comme une profession.
Le point d'orgue de cette visite du président américain sera un discours au siège de l'Union européenne demain. Barack Obama a aussi participé aujourd'hui à un mini-sommet sur le Soudan du Sud.
Et pour être tout à fait complet, le président américain Barack Obama s'est désolé à Addis Abeba que la situation au Soudan du Sud, ravagée par 19 mois de conflit civil, continue de se détériorer. Il a appelé à un accord de paix entre belligérants dans les prochaines semaines. Le conflit sud-soudanais a déjà fait des dizaines de milliers de morts, selon des observateurs, et chassé plus de 2 200 000 personnes de chez elles. Trois personnes ont été décapitées dimanche dans l'extrême nord du Cameroun, des attaques attribuées aux islamistes nigérians de Boko Haram, selon des sources sécuritaires, rapporte l'AFP. Samedi soir, une kamikaze adolescente s'est faite exploser, tuant au moins 20 personnes et blessant 79 autres dans la ville de Maroua, extrême nord. Il s'agissait du cinquième attentat suicide en 2 semaines. La mission d'observation électorale de l'ONU a conclu ce lundi que le scrutin présidentiel au Burundi s'était globalement déroulé dans le calme, mais n'était pas libre, crédible et inclusif. Selon le rapport préliminaire de la mission, que cite l'AFP, le scrutin avait été marqué par des violences et des entraves aux libertés d'expression et de la presse. Toujours au Burundi, Agathon Rwasa, le leader incontesté de l'opposition, s'est présenté pour la première session de l'Assemblée nationale. Beaucoup de Burundais s'interrogent, mais M. Rwasa indique qu'il veut réclamer de nouvelles élections car il ne reconnaît pas les résultats des récents scrutins. Il avait obtenu 30 des 121 sièges de la nouvelle Assemblée, même s'il n'avait pas participé aux communales et législatives. Au Congo-Brazzaville, les représentants de l'opposition et certains membres de la majorité ont ouvert hier à Brazza un dialogue pour prévenir un coup d'État constitutionnel au Congo, alors que les partisans du pouvoir demandent un changement de constitution permettant au président de briguer un troisième mandat. En Côte d'Ivoire, troisième report du procès d'officier ivoirien fidèle à l'ex-président Laurent Gbagbo en rapport avec les troubles post-électoraux de 2010-2011. Une nouvelle fois, l'avocat d'un des principaux prévenus ne s'est pas présenté. Détail, Eddie Isango.
L'audience a été renvoyée à une semaine plus tard, soit au 3 août. Le président du tribunal Tairoun Dembélé, visiblement agacé, a, selon l'AFP, souligné qu'il s'agissait d'un ultime renvoi de l'audience. La dernière fois, c'était le 21 juillet dernier. L'avocat de l'ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame Simone Gbagbo, commandant Anselme Sekayapo, poursuivi pour meurtre, avait brillé par son absence. Anselm Sekayapo, surnommé Seka Seka, les derniers accusés entendus par les tribunaux angevins et poursuivi pour assassinat et blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes. Il plaide non coupable. Avec lui, comparé à un autre homme fort de l'ancien régime, le commandant Jean-Noël Abbaye, poursuivi lui pour complot et désertion à l'étranger. Ses procès ouverts le 9 juin ont été interrompus plus d'une fois. Les avocats de deux piliers de l'appareil sécuritaire sous Laurent Gbagbo réclament des preuves ou, le cas échéant, l'exhumation du corps d'une victime en vue d'une autopsie. L'audience du lundi 3 août doit être consacrée aux dernières auditions de prévenus, aux réquisitions et aux plaidoiries selon les tribunaux.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président soudanais Omar Hassan al-Béchir, visé depuis 2009 par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, est arrivé hier en Mauritanie pour un sommet sur la Grande Muraille Verte, un projet pour stopper l'avancée du désert. Omar al-Béchir ne devrait pas être inquiété en Mauritanie, qui ne fait pas partie des pays africains signataires du traité de Rome instituant la CPI et qui le poursuit pour génocide au Darfour, une province du Soudan. Tension en Turquie après l'annonce d'une offensive contre le groupe État islamique. Ankara a bombardé les positions des rebelles du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, dans le nord de l'Irak, qui a riposté en revendiquant un attentat suicide ayant provoqué la mort de deux soldats turcs. C'est dans ce contexte que les États-Unis et la Turquie ont décidé de travailler conjointement à débarrasser du groupe État islamique le nord de la Syrie à la frontière turque. Michel Joseph.
L'annonce a été faite par un responsable américain en marge de la visite de Barack Obama en Éthiopie. Le but est d'établir une zone débarrassée du groupe État islamique et d'améliorer la sécurité et la stabilité le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie, a déclaré à l'AFP ce responsable ayant requis l'anonymat. La Turquie, longtemps accusée de complaisance vis-à-vis des organisations radicales en lutte contre le régime de Damas, a lancé ces derniers jours une offensive aérienne contre le groupe État islamique en Syrie après un attentat suicide qui a fait 32 victimes dans le sud du pays. De nombreux observateurs se demandent si la Turquie, qui a parallèlement bombardé des bases aériennes de la rébellion kurde du PKK, n'a pas surtout pour objectif de limiter les capacités des forces kurdes en Syrie et en Irak, plutôt que de s'attaquer réellement au groupe État islamique.
Au Yémen, l'aviation de la coalition menée par l'Arabie saoudite a frappé aujourd'hui par erreur des positions de forces pro-gouvernementales dans le sud du pays, faisant au moins 12 morts au premier jour d'une trêve de 5 jours destinée à faciliter l'aide humanitaire. Jean-Roger Billon nous en dit plus.
L'un des chefs des forces gouvernementales a précisé à l'AFP que les avions de la coalition avaient effectué, entre autres, deux raids à Jebel al-Zeytoun, tuant 12 combattants et blessant 30 autres. Les raids saoudiens ont notamment visé des positions aux environs de la base aérienne d'Al-Anad, tenue par les rebelles chiites Houthis, dans la province de Lajj. Ailleurs au Yémen, les frappes aériennes se sont arrêtées, mais des combats continuent sur le terrain à Taiz et dans les environs d'Aden, dans le sud du pays. La pause, initiée unilatéralement par la coalition, a commencé à minuit heure locale pour permettre de secourir les civils durement éprouvés par 4 mois de conflit. Les rebelles qui se sont emparés l'an passé d'une grande partie du pays, dont la capitale Sanaa, avec l'aide de militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, n'ont pas fait savoir s'ils acceptaient la trêve. Une précédente trêve de 5 jours à la mi-mai n'avait pas empêché la reprise de combat et une pause initiée par l'ONU à partir du 10 juillet ne s'était jamais matérialisée.
Au moins 10 morts, civils et militaires, et plusieurs blessés, tel est le bilan d'un attentat terroriste perpétré ce lundi dans l'état du Punjab, en Inde. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais des groupes de militants basés au Pakistan sont pointés du doigt. Les autorités indiennes ont renforcé la sécurité le long de la frontière. Le président Barack Obama a vivement réagi aux critiques acerbes du Parti républicain contre l'accord nucléaire que les États-Unis et 5 autres puissances mondiales viennent de signer avec l'Iran. Lors d'une conférence de presse à Addis Abeba en Éthiopie, le chef de l'exécutif américain a rejeté les déclarations du candidat Mike Huckabee selon lesquelles l'accord avec l'Iran conduirait les Israéliens aux portes des fours crématoires. M. Obama a déploré ce qu'il qualifie d'attaque scandaleuse de ses adversaires politiques qui sont devenus monnaie courante et diffusés sans arrêt sur Internet et dans les médias. Le Congrès, rappelons-le, a 60 jours pour se prononcer pour ou contre l'accord sur le nucléaire iranien. Réaction sur la visite d'Obama en Afrique dans un instant avec Jean-Roger Bion.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.